Sud Radio Invino, 13h, 13h30, Alain Marty.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à bord de Invino Sud Radio. Je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique Nicolas, par exemple, située à Marseille, au 17 Place Castellane, sur 95.1. Et comme vous le savez, nous sommes la seule émission de radio au monde en français à 100% consacrée aux vins et aux spiritueux. Et vous écoutez actuellement, depuis quelques secondes, le numéro 1286 d'Invino Sud Radio, depuis la création il y a 20 ans déjà. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable, avec tout à l'heure Ingrid Coiffet, dirigeante de Dionysa, et puis le Vino Quiz pour gagner un coffret gourmand offert par le cercle Wine Business. À mes côtés pour nous accompagner, Christelle Taré, première femme maître caviste de France. Bonjour Christelle.
Bonjour Alain.
Tout va bien depuis hier?
Oui, très bien, merci.
Et également Laure Gasparotto, qui est toujours journaliste au Monde. Bonjour Laure.
Bonjour Alain.
On commence l'émission avec une femme formidable, Invino Sud Radio a le plaisir d'accueillir Véronique Dos, directrice générale du château Fellan-Ségur. Bonjour Véronique.
Bonjour.
Alors avant de parler de cette star de l'appellation Saint-Estèphe, un mot sur votre parcours. Vous êtes diplômée de l'EM Lyon et vous avez débuté votre carrière dans la Napa Valley. Ça ne le rajeunit pas, mais c'était sympa comme expérience, non?
Ah oui, surtout à cette période-là.
Ouais.
C'était au milieu des années 80, ça bougeait beaucoup. C'était encore une période où on construisait, on développait, on inventait beaucoup à Napa. C'était ouais. Encore la... une aventure
le Far West du vin
complet.
Alors Fellan-Ségur, donc tout débute en 1810 avec Bernard O'Fellan, c'est ça, racontez-nous.
C'est ça, c'est un négociant en vin spiritueux irlandais qui, grâce à son ami Barton, vient en France, et puis je vous passe tous les détails historiques. Mais voilà, tombe amoureux de Bordeaux, d'une propriété à Saint-Estèphe, s'allie à son beau-père Bernard Guettier et achète deux parcelles qui formeront après le château Fellan-Ségur. Donc des origines complètement irlandaises comme les Lynch, comme les Barton.
Il y avait beaucoup d'Irlandais à Bordeaux quand même.
Ouais, pas mal, ouais, ouais. Comme les
Clark. Et les propriétaires aujourd'hui, les heureux propriétaires, qui sont-ils?
Alors après 30 ans sous la houlette de la famille Gardinier, bien connue pour son métier dans la restauration et l'hôtellerie de luxe, maintenant nous sommes donc dans les mains d'une famille belge-flamande, la famille de Philippe Vandevivre, qui n'a rien à voir avec le vin, hormis leur passion
ouais,
pour les
ça,
grands
ouais.
Bordeaux.
Ouais. Comme beaucoup de Belges d'ailleurs. Laure?
Oui, vous avez de la chance parce que du coup, vous avez pu rester malgré le changement d'actionnaire.
Elle est formidable,
c'est,
Véronique.
C'est peut-être eux qui ont de la chance. C'est pas ça, alors.
C'était pour ça.
Belle réponse. Non, mais,
ça vous permet d'avoir un recul.
Bah, oui. Ouais. Mais toute l'équipe est restée. Enfin, nous, on est là au service de la propriété. On dit qu'on est. C'est ce qui nous anime. Je pense qu'on s'en occupe comme si c'était la nôtre. Les gens ne partent pas de Fellan.
Mais en général, dans pas mal de rachats d'entreprises, hein, pas forcément dans le domaine du vin. Souvent, on coupe la tête du directeur général, puis on met une nouvelle tête. Là, en l'occurrence, dans le vin, c'est assez fréquent qu'on conserve les dirigeants.
C'est normal parce que c'est un vignoble, ça s'appréhende sur l'histoire.
Justement, vous devez travailler sur les 20 ans qui viennent, j'imagine. Oui. Quels sont les défis de Fellan-Ségur pour les 20 ans qui viennent, justement?
C'est vraiment un défi au vignoble, très clairement. Avec même si Saint-Estèphe a quand même une caractéristique en termes de terroir, avec ses graves et ses argiles, nous on fait face quand même aussi à de la sécheresse. Concrètement, c'est par exemple nous venons de décider de réduire les densités. On était planté à 10 000 pieds hectares, donc un par un, et on repasse à un vin par un. De façon, évidemment, on change de façon à ce que chaque pied ait un territoire
plus important.
Après, on regarde beaucoup les porte-greffes, etc. Bon, c'est forcément des enjeux climatiques et ces enjeux humains.
Christelle, un petit mot peut-être sur cette appellation Saint-Estèphe. Elle est parfois encore à découvrir.
Oui, c'est vrai qu'elle est assez, dans l'esprit, c'est la vérité, d'ailleurs, elle est assez puissante. Voilà. Moi, j'aime bien dire que ça peut être aussi une main de fer dans un gant de velours et qu'il y a plein de différentes façons de l'approcher. Voilà. Et dans le vieillissement aussi, c'est-à-dire que c'est une appellation qui vieillit très bien. Est-ce que vous faites vieillir les vins à la propriété? Est-ce qu'on peut acheter des vieux millésimes, ce qui devient de plus en plus rare aujourd'hui?
D'abord, je pense que c'est une appellation qui bouge à plusieurs titres. On est encore, moi je suis vice-présidente de l'appellation, on est à peu près 55 déclarants. Il y a d'énormes progrès qualitatifs, ça c'est certain. Je pense que là aussi, les changements climatiques parlent pour cette appellation.
Et vos avantages?
Ah oui, je pense, ouais. À la fois parce qu'on arrive à toujours produire des vins frais, et ça c'est une réalité, parce qu'on est en face du fleuve, et la Gironde est au niveau de Saint-Estèphe s'élargit beaucoup, donc on bénéficie beaucoup de cette influence-là. C'est une appellation où maintenant, je crois qu'on a les moyens d'amener nos Cabernet Sauvignon, qui sont toujours le cépage phare de l'appellation, même s'il y a beaucoup de Merlot grâce aux argiles, à une pleine maturité.
Donc on a ce qui n'était pas forcément le cas avant. Hein.
Exactement. Et ce qui maintenant fait qu'avec une viticulture un peu plus de précision, avec des rendements qui sont un peu plus contenus, on arrive à faire des vins qui sont à la fois beaucoup plus aimables jeunes, mais qui ont toujours cette capacité à vieillir. Et effectivement, à la propriété, on a des vieux millésimes.
Alors,
on
n'a pas à la vente ou pas ?
Oui, à la vente. Alors, pas énormément, mais on vend des 2010, par exemple, 2010, 2011, enfin des millésimes qui ont une quinzaine d'années.
Et alors, savez-vous si les Français aiment particulièrement Saint-Estèphe et Félan-Ségur en Est-ce que c'est plutôt à l'export
Alors nous, c'est plutôt à l'export, paradoxalement. Mais c'est à l'export, c'est un export européen. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de... On a un très joli marché qui est en Suisse, mais c'est la Suisse, c'est l'Allemagne, c'est l'Autriche, c'est la Belgique, c'est beaucoup les États-Unis aussi.
Et vous passez par le commerce de place ou vous vendez directement
Ouais, 100% par la place.
Ouais. 100%, oui.
Ouais, absolument.
Bah, vous nous rappelez le système de commerce de place, Christelle ? Comment ça marche à Bordeaux ?
Oui, c'est vrai que c'est le système des négociants, en fin de compte. Alors c'est vrai que moi, je lutte un petit peu, je trouve que c'est intéressant, de plus en plus de propriétés passent en direct, justement, et changent de principe de commercialisation, parce que c'est vrai que les vins peuvent être distribués un peu de partout. Est-ce que vous avez ce problème, là, justement, vous, parce que ce qu'on va... Alors là, pour le coup, c'est la question de la caviste, mais moi, je travaille avec vos vins que j'aime depuis des années, mais parfois, on va les retrouver en grande distribution, ce genre de choses.
Et ça, c'est le problème.
Justement, à cause de la place, donc...
C'est pas tellement à cause de la place, c'est qu'on a des grosses propriétés. On a des propriétés. Moi, Félan-Ségur, c'est 70 hectares.
C'est énorme.
70 hectares en grand vin, ça fait 200-250 000 bouteilles. Donc,
Vous êtes obligé de passer par toutes les distributions.
On n'est pas obligé, mais en l'occurrence, Félan-Ségur, c'est pas du tout une propriété qui dépend de la grande distribution. Pas du tout, au contraire. Moi, je me suis toujours refusé à avoir des accords qui m'emprisonneraient, pas parce que c'est la grande distribution. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui vous fait beaucoup plus mal, ça peut être le e-commerce, si les prix sont pas maîtrisés, plus que la grande distribution.
Oui, dans les deux. Aujourd'hui, aussi bien la grande distribution que le e-commerce, mais c'est vrai qu'on peut retrouver surtout dans les foires au vin, par exemple, des vins, et malheureusement, les prix sont beaucoup plus bas que les nôtres, donc les clients comprennent pas. Pourtant, nous, on respecte les prix de la propriété.
Je comprends très bien. Et en revanche, vous voyez, à Félan, le second vin de Félan-Ségur, c'est Franck Félan.
Oui.
Et Franck Félan, c'est justement un vin que j'ai, via la place, préservé d'une distribution en grande distribution pour justement permettre aux cavistes de gagner leur vie et de ne pas être en concurrence un peu déloyale par rapport à des circuits qui sont plus courts. Donc nous, on a répondu à cette problématique du caviste via notre second vin.
Laure ?
Vous parliez tout à l'heure de défis environnementaux et sociaux. Comment ça se traduit, un défi social pour une propriété comme la vôtre ?
C'est la difficulté à recruter, à former.
Combien de personnes sur le domaine ?
On est 38.
Ah, 38, c'est une vraie PME, une belle PME. Quoi.
Ouais, 38 avec aujourd'hui 17 personnes à la vigne. Et pour arriver à recruter, on fait partie de plusieurs dispositifs en fait, de formation, comme les vignerons du vivant ou comme l'école de la vigne, qui nous permet d'accueillir comme dans une forme de compagnonnage des jeunes, ou moins des jeunes, d'ailleurs pas nécessairement des jeunes, et qu'on va faire passer, on est en groupe de propriétés en fait, et on les fait passer sur beaucoup de propriétés, et ils font aussi bien de la vigne et du chai, et au bout de 18 mois, enfin ça dépend, 12 mois pour un programme et 18 mois, ils peuvent être embauchés ou pas, c'est quelque chose de magnifique. Mais voilà, c'est un métier qui est toujours difficile, on arrive à faire entrer de plus en plus de femmes, mais il y a quand même aussi des problématiques après de santé, réellement.
Oui.
Toutes les TMS, ça existe, donc on aménage, on leur fait faire du sport, on les échauffe, etc. Et puis on travaille un peu différemment, on est moins à la tâche.
Ça a évolué quoi. Côté gastronomie, qu'est-ce qu'on peut imaginer avec un Félan-Ségur relativement jeune, Véronique, et un peu plus évolué ?
Alors, moi, je prêche beaucoup, en particulier sur le second vin, sur Franck Félan, pour aller sur, c'est ce qu'on fait, la propriété, pour aller sur des plats de poisson en sauce. Alors, on a notre propre chef à la propriété depuis, je crois, les années 80. Donc
c'est le même chef depuis les années 80 ?
Non.
Ah, quand même.
Ça, ce serait un exploit. Non, je crois qu'on a eu 4 ou 5 chefs, mais en général, ça fonctionne assez bien.
Et on peut recevoir, vous recevez la propriété ?
Oui.
Quand on passe dans cette belle région, on peut dire toc toc, bonjour Véronique, on vous a écouté à la radio ?
Non, vous commencez par envoyer un mail ou un...
Ah, quand même.
Mais pas par posture, tout simplement, parce que notre métier, avant tout, c'est de faire du vin et qu'on a toujours refusé d'avoir ce que je respecte dans notre propriété, hein, mais d'avoir des guides ou des hôtesses, ou, etc. Mmh. Et qu'on préfère vraiment recevoir nous-mêmes. Donc, forcément, ça répond à des aléas.
Il faut prévenir, il faut organiser les choses. Voilà. Et alors, pour terminer, la température de service d'un Félan Ségur, que ce soit un Franck Félan ou le Grand Vin, vous le conseillez à combien ?
15, 16, max.
Il y a un site internet, une adresse peut-être pour prendre renseignements sur tout ce beau domaine Félan Ségur.
Le site internet c'est Félan Ségur et l'adresse mail c'est félan@félanségur.com.
Merci beaucoup Véronique Dos, merci également à vous Laure Gasparotto et Christelle Taré. On se retrouve dans un instant avec le Vino Quiz pour gagner des très jolis cadeaux en jouant sur invinoradio.tv.
Sud Radio Invino, 13h-13h30, Alain Marty.
Retour chez le caviste Nicolas, je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique située à Marseille au 17 Place Castellane sur 95.1 et nous remercie d'être toujours très très nombreux à nous suivre chaque week-end. N'hésitez pas non plus à nous retrouver sur le compte Insta Invino Sud Radio pour toujours plus d'actualité. On retrouve maintenant Christelle Taré et le Vino Quiz, Christelle.
Je vous en rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux. Cette semaine, un coffret gourmand offert par le Cercle Wine Business. La question de ce week-end. Quelle profession exerçait Grégoire Oppenau avant de créer son domaine dans le Beaujolais ? Réponse A, comptable. Réponse B, agent immobilier. Réponse C, négociant commerçant. Pour répondre, rendez-vous toute la semaine sur le site invino.tv, rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
Parfait, merci beaucoup Christelle Taré. Il faut réécouter l'émission par exemple d'hier. Aujourd'hui, on accueille Ingrid Coiffé. Bonjour Ingrid.
Bonjour.
Alors un mot sur votre parcours. Vous avez fait quoi avant de créer Dionysa ?
Avant de créer Dionysa, j'ai exercé une dizaine d'années en tant que chargée d'affaires pour vendre du rayonnage à palette.
Rayonnage à palette, oui. C'est quand même beaucoup moins sexy ça.
Un peu moins, en effet.
Oui. Et alors, vous avez décidé de créer votre boîte quoi, un matin en vous réveillant ? Comment ça s'est passé ?
C'est un peu ça. Disons que l'entreprise pour laquelle je travaillais, finalement, a changé un peu de visage puisque rachetée par un fonds d'investissement. Et donc, il y a un moment où les choses sont un peu différentes et on se pose des questions sur son parcours. Et puis, une envie d'entreprendre qui repointe le bout de son nez. Et à partir de là, je me suis posé simplement une seule question. Qu'est-ce que je pourrais avoir envie de faire tous les jours
En étant heureuse.
Un tel plaisir que ça n'en serait plus du travail. Et là, le vin donc, s'est imposé comme une évidence. Il n'y a pas eu d'autres alternatives, en fait. Et après, il a fallu trouver le vin, oui, mais quoi ?
Voilà. Hey, alors justement, quel est le concept de Dionysa ?
Alors, le concept de Dionysa, il s'articule autour de deux activités. La première, c'est le cadeau d'affaires donc autour du vin avec une clientèle d'entreprise, donc les cadeaux pour remercier ses clients ou ses salariés. Et ensuite, la deuxième activité...
Ça marche toujours, ça ? Parce que c'est quand même acheter un peu les gens, non ?
Alors non, c'est pas acheter les gens, c'est avoir de la reconnaissance. Mais effectivement, ça devient compliqué, je dirais, par rapport à une certaine taille d'entreprise qui va l'assimiler on va pas dire de la corruption, mais enfin, c'est un peu considéré comme ça. Et donc souvent dans des accords, dans les contrats, vous avez des clauses effectivement qui peuvent l'interdire. Maintenant, il faut rappeler que ça concerne des entreprises d'une certaine taille et elles ne sont pas forcément non plus représentatives du tissu d'entreprise qu'on peut avoir
donc,
en France.
Donc ça, c'est le cadeau d'affaires.
Exactement.
Et ensuite...
Et la deuxième activité, donc, ce sont des ateliers d'œnologie que je propose toujours auprès d'une cible d'entreprise, donc principalement en team building pour les collaborateurs ou aussi sur des points de vente pour remercier les clients, partager un moment avec ses clients sur des sessions un peu privées.
Laure.
Comment est-ce que vous choisissez les vins qui vont servir de cadeaux d'entreprise ?
Alors déjà, effectivement, j'ai choisi différemment sur la gamme cadeaux d'entreprise et sur la gamme atelier d'œnologie. J'ai des critères de sélection, le premier étant que ce soit des
bons vins.
Oui, des bons vins évidemment, bons vins, ouais. Mais des bouteilles qui ne sont pas vendues en grande surface ou sur des sites marchands, puisque sur le cadeau d'affaires, c'est quand même pas forcément super classe d'offrir une bouteille que votre client peut retrouver sur les étalages.
Mais j'imagine quand même que ce sont des étiquettes connues pour que la
Alors,
personne
non,
qui...
justement, non pas forcément. L'idée, c'est plus d'être sur une notion de cadeau découverte. Donc, je vais mettre à l'honneur plutôt des petits vignerons avec comme critère de sélection aussi qui devient de plus en plus rédhibitoire le bio. Effectivement, donc le vigneron travaille en bio à minima, voire en biodynamie. Et puis aussi, je m'oriente beaucoup sur ceux qui ont fait un travail sur les étiquettes ou sur le nom de cuvée pour avoir un truc qui peut être un peu fun et sympa en cadeau d'affaires. Après, si l'étiquette n'est pas connue, c'est pas un problème puisque j'ai créé un petit concept basé sur une étiquette avec un QR code où justement, quand la personne reçoit la bouteille, Elle peut flasher ce QR code et elle a accès à une fiche de dégustation intelligente, voilà, où on va donner les clés essentielles.
Christelle ?
Oui, je trouve ça hyper intelligent, le code IVIN, justement. Parce que souvent, ça répond à une demande, c'est-à-dire que le client reçoit la bouteille et en fin de compte, il est très content de son cadeau, mais il ne sait pas forcément ce que c'est. Et puis, je crois que vous pouvez mettre les accords mets et vins dessus aussi.
C'est ça, j'y mets les clés essentielles, voilà. Accords mets et vins, le potentiel de garde. Et sur le cadeau d'affaires, j'ai aussi une version où on peut aussi passer un petit message de remerciement au préalable avec son logo, une petite vidéo. Donc, ça rajoute un côté fun.
Ça complète
sympa.
Votre offre parce que c'est pas simple non plus d'offrir des cadeaux sans parfois la marque derrière. Donc tout avec le système Code IVIN, je pense que ça appuie au contraire votre concept.
C'est ça, ça ramène de la valeur ajoutée et ça met à l'honneur ce vigneron parce que comme vous disiez, on sait pas du tout qu'est-ce qu'on a reçu comme bouteille. Il faut pas oublier que la plupart des gens ont pas forcément une culture œnologique très poussée et tout le monde se pose la question avec quoi est-ce que je vais boire ma bouteille. Donc là, on a la réponse.
Mais quelles sont les régions que vous préconisez le plus ?
J'ai pas de région à préconiser, c'est-à-dire que la gamme est large. On va représenter à peu près tous les vignobles plus ou moins sur des gammes de prix aussi, où je dirais il y en a pour tous les goûts. Et après, on va faire ça à la bouteille ou en coffret. Donc,
en général, la gamme de prix, ça va de combien pour les coffrets cadeaux ou pour les dégustations ?
Sur les bouteilles, on démarre à 12 euros hors taxe et sur les Bourgognes, où on va monter un peu plus, on va finir dans les 40, une petite quarantaine d'euros hors taxe. Je voulais rester vraiment accessible.
Et vous l'avez créé quand, la boîte ?
En juin 2021.
Et alors ça va, ça, vous en sortez, vous pouvez embaucher, vous sortir un petit salaire parce que c'est pas facile de débuter avec.
Non, c'est pas facile, surtout quand on est maman aussi, on avance.
Combien d'enfants ?
Deux enfants.
On va rappeler leur prénom.
Arthur 4 ans et Mélina 13 ans.
Allez, on les embrasse tous les deux, quoi, et sans modération pour les embrasser. Et alors votre dernier coup de cœur, c'était quoi, par exemple ? Il y a un vin qui vous a fait vibrer, dites-nous, Ingrid.
Alors sur un dernier coup de cœur, c'est un vin que j'ai en gamme depuis le début, mais que j'ai toujours plaisir à rouvrir. C'est le domaine Pierre Cordu en appellation Ladoix que j'avais sélectionné puisqu'on pouvait sur le cadeau d'affaires avoir le blanc et le rouge où on a les deux.
Ladoix,
alors
couleurs. Vous nous rappelez dans quelle région nous sommes ?
On est en Côte de Beaune et c'est en effet un domaine qui est plutôt connu là comme pour le coup, mais avec un bon rapport qualité-prix.
Tout à fait. Et c'est vrai que dès l'ouverture de la bouteille, pourtant on était encore sur un millésime relativement jeune pour un Ladoix sur un 2020, on a tout de suite cette finesse, cette élégance au nez, et ça, c'est, je trouve que voilà, ça fait partie de la
et
magie
vous,
du vin.
Et qui vous a initié au vin, votre mari ou compagnon, oui. Papa, c'est qui vous a appris le vin ?
Tout le monde y passe. Alors, j'ai appris beaucoup en autodidacte, puisqu'en fait, quand je décide de créer l'entreprise, j'ai pas de connaissances techniques, j'ai vraiment juste une passion derrière moi pour le vin, et je me suis formée aussi à l'école des vins et des spiritueux, où j'ai passé mon niveau 3 directement il y a un an.
Ouais, donc elle est devenue fan. Christelle, cette catégorie de gens, là, les buveurs d'étiquettes, parce que là, Ingrid propose des choses plutôt découvertes, c'est bien, c'est pour les gens ouverts. Mais qu'est-ce que vous avez dans votre cave à Neuilly ? Alors, Neuilly, c'est peut-être spécial. Est-ce qu'ils viennent chercher de la marque ou viennent chercher autre chose ?
Non, mais nous, on a travaillé sur le fait que, justement, c'est ce que fait Ingrid, c'est-à-dire de parler du vin avant de parler de la marque. Donc déjà, on a très, très peu de marques au magasin et on fait beaucoup déguster. C'est l'avantage aussi, c'est-à-dire que quand on fait goûter les vins, on peut en parler, on peut éduquer et automatiquement, on peut faire comprendre la qualité du vin sans être forcément derrière une marque. Et ce qui compte quand même beaucoup aussi pour nos clients, c'est l'appellation.
C'est l'appellation. Voilà. Donc, ça compense peut-être même la marque parfois du...
Oui. Alors, sauf, je dirais qu'il y a deux régions qui sont très marquées par la marque, c'est le Champagne et le Bordeaux. Oui. Mais sur les autres, on reste quand même, c'est plus facile d'en sortir.
Et vous, là, vous en pensez quoi, là, ces buveurs d'étiquettes voilà, quand il n'y a pas de grande marque, point de salut à leurs yeux, c'est quoi ? C'est stupide ? C'est comme ça ?
Non, mais il faut comprendre aussi les gens qui connaissent pas le vin et qui se réfèrent à un mot qu'ils connaissent, qui les rassure. Pourquoi pas ? Enfin, c'est vrai que moi, selon les amis que je reçois, parfois je leur ouvre une étiquette parce que je sais que ils vont trouver que je leur offre plus d'amour. Ben oui, parce que
on vous aime. Quoi. Et vous, Ingrid, vous en pensez quoi ? Alors, visiblement, c'est pas votre tasse de vin, si je puis dire.
Oui,
mais
alors effectivement, non. Je pense qu'il y en a pour tous les goûts, de toute façon. Et puis, je crois qu'il faut savoir. C'est important d'apprendre à redéguster en se posant les bonnes questions. Et c'est tout le travail que je fais sur les ateliers d'œnologie où je vais assez déconstruire en fait ce que les gens savent sur le vin en travaillant par l'expérimentation, par la surprise, notamment en faisant déguster à l'aveugle dans les verres noirs pour simplement faire trouver la couleur. C'est toujours un grand moment parce que quand
donc
vous
on
êtes,
peut se tromper voilà, entre un ouais, blanc
quand
un rouge
vous
savez
pas
rosé.
Et que vous avez pas effectivement donc l'étiquette même je suis assez sûre que sur les pour les buveurs d'étiquettes ça pourrait être un petit jeu intéressant à faire aussi de changer les bouteilles. Vous avez des préjugés qui ont un poids énorme dans votre ressenti au moment de la dégustation. Et je suis sûre que certaines personnes qui aiment beaucoup les étiquettes passer à l'aveugle ça pourrait être rigolo.
Et le bio c'est un effet de mode ou alors c'est vraiment une vraie demande et c'est un phénomène durable et irréversible
non
selon vous, hein.
Alors pour moi c'est pas un effet de mode et puis après c'est aussi des convictions derrière personnellement personnel, je pense que le vin, il se fait à la vigne. Et si j'en suis là aussi dans mon parcours, c'est vraiment aussi pour l'amour du végétal. Et donc, à partir de là, il y a tout un environnement à prendre en compte. Et c'est vrai que le bio, je dirais, quand on se penche sur le sujet, devient assez logique dans le terme bon sens. Voilà. Ouais.
Et c'est votre client qui le demande ou c'est vous qui le proposez?
Non, pas forcément. Effectivement, non. Moi, je fais la sélection. C'est à moi après d'aller expliquer les vins, d'aller vendre. Il y a une demande, mais elle n'est pas. Je peux pas dire que ma démarche a été basée sur une demande client.
Et vous, alors Christelle, dans votre demande de votre clientèle, le bio, le nature, tout ça?
Après, c'est différent. Nous, on explique, c'est-à-dire que déjà, on a toujours été une cave qui prône la biodynamie, le bio, le bienfait. En fait, pour moi, ça ne doit pas déterminer le vin. En fin de compte, un vigneron qui fait bien les choses, il n'est pas forcément en agriculture biologique et ça peut y ressembler et être très bien. Alors ça aussi, on l'explique aux clients parce qu'aujourd'hui, les entreprises, en effet, moi je trouve, veulent de plus en plus de l'éco-responsable. Mmh. Elles ont cet engagement-là, donc elles le cherchent au travers des labels, mais l'éco-responsable, il n'est pas forcément dans les labels. Voilà, il est dans le travail du vigneron avant tout. Mmh.
In Vino Veritas, c'est In Vino chez les vignerons. Ingrid, merci en tout cas. Merci. Longue vie à Dionysa. Donc, il y a un site internet pour avoir...
Oui, www.dionysa.com, D-I-O-N-Y-S-A, j'insiste.
Il faut le préciser. Merci Laure Gasparotto. Merci également à Véronique Dos, Christelle Taré, aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un clin d'œil à Emma qui a préparé cette émission. Fin de ce numéro d'In Vino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.tv, les comptes Facebook et Instagram In Vino Sud Radio. Et on se retrouve samedi prochain à 13h précise pour une nouvelle émission, toujours délocalisée chez le caviste Nicolas. D'ici là, excellente suite de dimanche. Restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français, puis n'oubliez jamais, surtout respectez la plus grande des modérations.